on va commencer avec cette première table ronde. Donc un projet de recherche, une recherche qui va démarrer, puisque la recherche, le projet de recherche en tout cas a été lauréat 2018, et donc une recherche qui va démarrer prochainement, qui est cofinancée par la Fondation MAF Initiative et Handicap, je le disais, et la Croix-Rouge française. Et je souligne les partenaires parce que c'est quand même chouette d'avoir beaucoup de partenaires. Dans quelle mesure le handicap moteur ou sensoriel est-il un facteur de non-recours à l'urgence sociale pour les populations sans abri ? Pour nous en parler, donc Lydie, alors je vais le faire peut-être dans l'ordre, on a Chloé Magnan, en bout de table, qui est conseillère technique à la Fondation de l'Armée du Salut et à la direction des programmes Jeunesse Handicap Dépendance. Bon, vous compléterez si j'oublie des choses. À côté, Lydie Gibet, qui est directrice générale du CREA Île-de-France. Et ensuite, Élodie Tiercelin, coordinatrice de parcours à l'Institut des Jeunes Sourds. Et ici en tant que représentante de l'association Œuvre d'Avenir. Et puis Stéphane Rulac, qui est directeur scientifique de la recherche et par ailleurs professeur en innovation sociale à la Haute École de Travail Social de Lausanne. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. Et voilà, merci d'abord d'être là, de nous avoir rejoints. C'est une recherche, je le disais, qui commence tout juste, mais d'ailleurs Lydie, vous rebondirez peut-être là-dessus, qui déjà donne, pas des résultats, mais en tout cas vous donne des choses positives à dire sur cette recherche. Alors un mot, le CREA Île-de-France est porteur du projet. Vous allez plus ou moins coordonner du coup cette recherche pour savoir en quoi justement le handicap est un frein pour l'accès aux dispositifs d'urgence sociale. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à cette recherche ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ?
Alors en fait, dans nos missions au sein du CREAI, on a la chance de pouvoir travailler avec différents secteurs, donc le monde de l'exclusion, le secteur du handicap, la protection de l'enfance. Et on s'est rendu compte que c'était quelquefois les mêmes personnes qui étaient accompagnées dans ces dispositifs et que le cloisonnement des dispositifs permettait, enfin, que le cloisonnement des dispositifs entravait encore plus les solutions possibles. Et à l'occasion de ma prise de fonction au CREA Île-de-France, ça fait pas très longtemps que je suis arrivée, donc ça fait 8 ou 9 mois, j'ai succédé à Jean-Yves Barrère, donc en toute humilité. Et je me suis rendu compte, j'avais dans mon réseau des gens qui, par exemple, dirigeaient des CHRS, dans le cadre du diagnostic territorial handicap rare, des personnes qui pouvaient être en lien sur les questions de déficience sensorielle. Eh ben, on s'est rendu compte qu'ils étaient en difficulté dans l'accompagnement de certains types de populations. Donc, par exemple, des personnes qui sont sans abri, qui également sont en situation de handicap du fait d'un déficit moteur et qui ont des fauteuils. Et du coup, le système actuel, les dispositifs, ben, ils ont beaucoup du mal à les accompagner. Et idem pour des personnes qui présentent une déficience sensorielle. Et donc, on s'est dit, bah, en tant que CREAI, on a quand même une mission, nous, de favoriser des solutions. Je me suis dit, bah, cet appel à projet recherche, handicap et grande précarité, c'est une super opportunité pour travailler sur ces questions-là. Donc, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai un peu appelé tout le monde. Alors, j'ai la chance aussi de travailler avec Stéphane Rulac que dans d'autres cadres de recherche. Et du coup, j'ai un peu pris mon téléphone et j'ai essayé de vérifier si tout le monde était emballé par cette question. Et on s'est réunis, on a tous travaillé ensemble. C'est vraiment un projet de recherche collectif, une réponse collective. Et ce qui vraiment me touche aujourd'hui, c'est que, comme vous avez dit, la recherche a été accepté par la FIRA et on a déjà commencé et les acteurs donc de la première phase qui sont la coordination des maraudes etc sont déjà vraiment impliqués et voilà c'est vraiment chouette quoi.
Voilà, c'est en ça que je disais une première surprise qui est déjà l'étonnement de voir des acteurs et des actrices très motivés à participer à ce projet. Stéphane, du coup, pour rebondir sur le côté participatif, nous dire un mot de cette recherche. Elle est participative, c'est de la co-construction, comme tous les projets de recherche de la FIRA, mais plus spécifiquement pour cette recherche-là. Voilà, quels sont les acteurs impliqués et comment vous allez justement essayer de travailler ensemble avec, en plus, une partie des acteurs et des actrices qu'on ne connaît pas encore, ce qui est un challenge supplémentaire et ce qui va être une surprise là aussi dans ce projet.
Alors en effet, c'est un projet de recherche qui rentre dans la famille de recherche appliquée qui se développe en ce moment, qu'on peut appeler une recherche-action collaborative. Alors recherche-action, tout le monde sait ce que c'est ancien. comme référence, comme pratique. Collaboratif, c'est sûrement aussi dans la pratique, mais comme référence un peu plus nouveau. Et donc l'idée, effectivement, c'est de mettre des types d'acteurs différents, que même les institutions et les dispositifs séparent d'habitude, ensemble, et ensemble à travers une dynamique de recherche. C'est-à-dire que tous les acteurs impliqués dans cette recherche sont considérés comme des chercheurs, y compris les personnes ciblées par la recherche, qui d'habitude sont des objets, et là, qui vont se retrouver, pour certains, acteurs d'une recherche en tant que chercheurs, et qui seront crédités, d'ailleurs, comme chercheurs de ce projet. Et donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas là parce qu'on ne les a pas encore trouvés, mais le premier objectif, c'est de les trouver. Et donc, c'est d'abord une action collaborative, effectivement, par rapport aux différents partenaires qui sont réunis. Et c'est parce qu'il y a toute cette pluralité de partenaires qu'on va peut-être pouvoir rencontrer plus facilement les personnes qui sont supposées être la cible de notre recherche, c'est-à-dire des personnes qui sont sans abri et qui présenteraient en même temps des déficits moteurs et ou sensoriels. Donc l'idée, c'est d'aller tenter d'abord de les trouver, de les dénombrer peut-être pas, mais en tout cas d'en trouver un certain nombre. C'est là que le SAMU social va être un partenaire pour nous très important, puisqu'il coordonne toutes les maraudes de Paris. Et on a adressé un premier questionnaire avant-hier, je crois, aux 110 maraudes professionnelles de Paris pour savoir si dans leur maraude, ils rencontrent des personnes qui nous intéressent. Et l'idée, ça serait d'aller en rencontrer 30 pour faire des entretiens un peu au long cours, pour savoir si, par hasard, ils ne seraient pas en situation de handicap, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas accès à l'urgence sociale. Et l'objectif ensuite, c'est d'en prendre 10 personnes qui seraient motivées et qui viendraient rejoindre le groupe de travail pour faire la recherche. Et c'est la phase numéro 2, où on prendrait donc les 3 savoirs qui sont censés s'articuler. Donc le savoir disciplinaire, scientifique, ça c'est assez classique. Le savoir professionnel du travail social, mais dans ses 2 composantes, comme l'a dit Lydie, c'est-à-dire urgence sociale et puis handicap, qui ne se parlent pas, hein, qui sont vraiment des tunnels. Et puis, l'innovation de cette démarche collaborative, c'est qu'on reconnaît un nouveau type d'expert qui aurait un savoir, c'est le savoir d'expertise d'usage. C'est-à-dire, quand on fait usage du dispositif, bah, si on est accompagné, évidemment, à le faire valoir, on a une expertise qui peut se transformer en savoir. Et donc, cette recherche sera co-construite à partir de ces 3 savoirs. Hein, c'est un peu l'idée du... Hein, vous savez, cette photo ou ce dessin qu'on fait souvent, on prend 2 personnes face à face, puis on met un 6 ou un 9, et puis il y en a un qui voit un 6, il y en a un qui voit un 9, parce qu'on n'est jamais d'accord, ils voient vraiment un 6 et un 9, c'est 2 choses différentes. Mais en fait, c'est la même chose, simplement, ils ne sont pas du même côté de la barrière. Donc là, l'idée, c'est de profiter de cette diversité, non pas comme un handicap, pour le coup, d'une recherche, mais comme quelque chose qui serait spécifique et qui nous permettrait ensuite d'être décisif, c'est-à-dire d'intégrer des normes nouvelles de l'accessibilité, d'abord des institutions d'urgence sociale, puis des accompagnements.
Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de trouver des leviers, effectivement, pour rendre plus accessibles ces dispositifs d'urgence sociale. Lydie et Stéphane, vous venez de parler déjà, tous les deux, de décloisonnement. Je crois que Chloé, pour l'Armée du Salut, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur dans le fait que vous ayez été intéressé par cette recherche, parce que chez vous aussi, c'était pas forcément évident, enfin, chez vous... à l'Armée du Salut, pas chez vous, mais c'était pas forcément évident de faire travailler ensemble aussi des secteurs. Alors, dans votre cas, c'est plutôt inclusion, handicap, mais en tout cas, de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler.
Oui, tout à fait. Mais déjà, je voulais en profiter quand même pour remercier Lydie Gibet et Stéphane Rulac aussi de nous avoir sollicités pour rejoindre cette recherche. Déjà parce qu'on y trouve un grand intérêt, mais aussi parce que c'est une démarche un peu innovante pour l'Armée du Salut aujourd'hui de rejoindre une démarche scientifique et de recherche. Et ça correspond à un réel désir en fait, de la Fondation de s'impliquer justement et d'amener de la recherche scientifique pour enrichir en fait, ce qui aujourd'hui pour nous ressort souvent sur des problématiques de terrain. Donc la question du décloisonnement, elle est importante parce qu'effectivement, notre organisation aujourd'hui est organisée avec un secteur inclusion sociale et un secteur jeunesse, handicap et dépendance. Et pour autant, on a vraiment le souhait de penser de plus en plus et d'agir de plus en plus en transversalité parce que les catégories ne font plus sens aujourd'hui et qu'on remarque que, par exemple, les personnes qui ont vécu à la rue ont du mal à avoir accès, ne serait-ce qu'aux établissements qui existent aujourd'hui dans le secteur handicap. Et parallèlement et paradoxalement, les établissements plutôt d'hébergement social ou de logement social ne sont pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc ça fait complètement sens par rapport aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui et que l'on souhaite absolument, aux freins que l'on souhaite lever pour aider ces personnes en situation de handicap et qui plus est à la rue aussi. Voilà.
Et je crois, et je m'adresse à Élodie, mais c'était un peu la même dynamique qui vous a aussi fait vous impliquer dans cette recherche, c'est-à-dire de vouloir concrètement voir quels outils on pouvait mettre en place pour rendre accessibles ces lieux-là. Et puis alors vous, Élodie, vous avez en plus cette double casquette et vous êtes là aussi pour cet apport spécifique puisque vous travaillez avec des personnes sourdes. Alors qu'est-ce qui a fait que l'association Œuvre d'Avenir a souhaité participer? Et quel va être votre rapport spécifique justement au sein de cette recherche?
Alors, au sein de cette recherche, l'association Œuvre d'Avenir s'est positionnée en fait en Œuvre d'Avenir. Ce point positif, c'est qu'elle accompagne des enfants et des adultes déficients visuels et déficients auditifs. Il y a vraiment un accompagnement de parcours de ces personnes en situation de handicap sensoriel de l'enfance à l'adulte. Après, moi, dans mon travail de tous les jours, en tant que coordinatrice des parcours complexes à l'Institut des jeunes sourds, je suis vraiment ravie de pouvoir mettre mon expertise au niveau de la surdité, au niveau de la langue des signes française dans cette recherche, et aussi l'expertise de la déficience visuelle et de la surdicécité, des doubles déficiences associées. Donc c'est vrai que ce projet de recherche a éveillé chez moi une curiosité. Et j'avais envie de savoir sur le champ adulte, que je maîtrise un petit peu moins, qu'est-ce qui aurait pu faire que les personnes soient en rupture de parcours et se retrouvent à la rue. Et ce qui m'a intéressée encore plus, c'est la démarche de recherche-action collaborative. Parce que moi, je suis intimement persuadée que les solutions viennent des usagers eux-mêmes. Et le fait de les faire participer, de leur donner une place vraiment à part entière dans la recherche, je trouvais que c'était extrêmement intéressant parce que ça fait écho à des situations que j'ai pu vivre dans le cadre de ma pratique professionnelle. J'accompagne des jeunes sourds qui perdent la vue et quand effectivement je propose à mes collègues de leur apprendre le braille, d'aller sur le domaine de la déficience visuelle, la réponse de mes collègues c'est de suite mais ils sont sourds, ils sont pas déficients visuels, tu vas pas leur apprendre le braille. Il y a des blocages, des représentations qui sont souvent fausses des professionnels qui sont bienveillants, qui connaissent le monde de la surdité. Mais j'ai voulu aller au-delà de ça et j'ai voulu poser la question directement aux usagers, j'ai posé la question directement aux jeunes sourds et aux jeunes sourds malvoyants. Et leur réponse a été, mais pourquoi pas, allons-y et innovons, et on a envie d'en savoir plus, on a envie d'apprendre ça. Donc le fait dans cette recherche de vraiment donner cette place experte aux usagers m'a vraiment, vraiment intéressée et je pense que c'est un point clé de la recherche aussi.
Ça fait écho à ce que Lydie nous disait en entrée. C'est vrai que cette triple expertise, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau pour vous, les participants de la recherche, puisque vous ne faites pas forcément ça tout le temps. Du point de vue de la FIRA, c'était aussi extrêmement intéressant de donner la parole et d'inclure cette fois des acteurs de terrain qu'on n'entend pas non plus forcément justement dans le cadre de recherche. Mais Lydie, je crois que vous me disiez, j'allais dire hors micro, mais on n'est pas à la radio, mais, que pour vous, cette triple expertise-là, au départ, ça allait déjà être un gage de qualité et c'est forcément... c'est une force justement dans le cadre de cette recherche et qu'on n'a pas forcément ailleurs dans d'autres missions que vous réalisez par ailleurs.
Qu'on n'a pas forcément ailleurs, mais je pense que c'est vraiment important qu'on commence à l'avoir un peu partout quand même. Mais c'était l'idée de un peu tous nécessaires et tous insuffisants. Voilà, chacun de notre place, on est tous nécessaires. On est tous insuffisants sur certaines situations. Et nous, CREA Île-de-France, dans cette recherche, l'idée, c'est uniquement d'être facilitateur de rencontres, d'organisations, et bien sûr avec les personnes elles-mêmes. Après, c'est un grand défi. Hein, on ne sait pas si on va arriver à tous les objectifs qu'on s'est fixés, ne serait-ce que pour identifier les personnes concernées, les inscrire dans la démarche de recherche en elle-même. C'est un défi. C'est aussi un défi d'apprendre à se parler les uns et les autres. Mais voilà, c'est un défi qu'on avait envie tous ensemble de relever. Quoi.
Et justement, et là, je m'adresse un peu à toutes et à tous. Enfin, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Qu'est-ce que vous pensez réellement que ça va vous apporter à titre personnel, mais aussi au niveau de vos fondations et associations? Et puis Stéphane, vous peut-être plutôt revenir sur le côté concret des résultats attendus, du cahier des charges qui va être produit. Voilà, c'est un petit peu pour faire un dernier tour de table, parce que vous le savez, on avance très très vite dans cette rencontre. Peut-être, alors Chloé d'abord, un mot sur les attentes.
Alors, juste pour rejoindre ce qui vient d'être dit, on a vraiment à cœur, à l'Armée du Salut, et de plus en plus, d'associer les personnes aux démarches qui les concernent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour nous. C'est la méthode de la recherche action collaborative que l'on valide par la même et que l'on souhaite, enfin, dans laquelle on souhaite absolument s'inscrire. Personnellement, je serais, une de mes attentes, c'est aussi de rendre plus visible la situation des personnes à la rue, la situation des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès à l'urgence sociale, mais aussi à certaines structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est vraiment ce que j'attends aussi de cette recherche. Et juste pour terminer, et je serai brève, je pense que plus ça va aller, plus on doit, au sein d'une fondation comme la nôtre, qui est importante et qui gère des établissements divers, s'enrichir vraiment d'une réflexion scientifique. Donc ça fait vraiment partie aussi de mes attentes.
Et du coup, pour rebondir là-dessus, Stéphane, il y a des attentes qui sont extrêmement concrètes et il y a des outils très concrets, là encore, qui vont être produits. Alors évidemment, on est un peu tôt, on est au démarrage, mais juste pour donner une idée de ce que ça va être, sous quelle forme, en tout cas, de quelle forme ça va prendre.
Alors juste avant de répondre à votre question directement, je vais revenir à un point que on n'a pas soulevé là, mais qui est très important, c'est que les personnes sans-abri ont fait l'objet vraiment de recherches innombrables. J'ai fait moi-même ma thèse sur ce sujet-là, et c'est vrai que c'est très porteur scientifiquement, ça intéresse beaucoup de gens, beaucoup d'argent, etc., beaucoup de moyens, c'est un phénomène parisien énorme et national aussi. Dans ce thème-là, il y a un sous-thème, c'est les personnes qui présentent des troubles psychiques, qui ont fait l'objet aussi de beaucoup de recherches, le SAMU Social de Paris notamment, avec son observatoire, a fait de grosses recherches, à tel point qu'on peut dire qu'il y a 30% des sans-abri qui seraient concernés par cette question. Mais alors, en ce qui concerne les personnes qui présentent des déficiences moteurs ou sensorielles, on n'a aucun élément. C'est le trou noir, ce qui est incroyable, ce qui pose d'énormes questions. Pourquoi un type de handicap est sous la lumière et pas un autre? Donc je pense qu'on va lever un bout du tapis et qu'une fois qu'on aura vu ce qui... On va entrevoir quelques éléments, on va sûrement avoir envie de soulever totalement, mais ce n'est pas cette recherche qui va le permettre. Ce qu'on va essayer de faire aussi, en commençant par cette question-là, c'est directement d'aller, effectivement, comme vous le suggérez, aux outils. L'urgence sociale est notamment définie dans ses activités, dans un grand référentiel, le premier date de 2005, puis il a évolué, où on décrit tout ce que doit faire l'urgence sociale. On s'est un peu amusé à regarder les références liées au handicap spécifiquement lié à des déficiences sensorielles ou moteurs, il y a une référence sur 160 pages. Donc, l'invisibilité de la problématique rend invisible, effectivement, les solutions. Mais alors, encore une fois, là, je pense qu'on s'est lancé dans un univers qui va nous apparaître à tous, à toute la communauté scientifique, professionnelle, experte, et cette recherche ne suffira sûrement pas. C'est sûrement un début de quelque chose, et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me pose vraiment cette question, pourquoi ce type de handicap n'est pas sous la lumière? C'est pour moi assez incroyable.
Donc Stéphane est en train de nous dire, on a à peine commencé la première recherche, qu'il va falloir en financer d'autres.
Message reçu. Je vais juste donner un exemple que déjà la coopération avec le SAMU social nous a donné. Moi, quand j'étais éducateur spécialisé dans une autre vie, j'ai travaillé au SAMU social pendant quelques années, la nuit, dans les camions, et à l'époque, on ne pouvait pas prendre les fauteuils roulants dans les camions. C'est l'une d'ailleurs de mes motivations de faire partie de cette recherche aujourd'hui. Les coordinateurs des maraudes nous ont dit qu'aujourd'hui, ça avait un peu évolué. Les fauteuils roulants classiques peuvent rentrer dans les camions, mais pas les fauteuils roulants électriques. Donc, vous voyez, voilà, on va tomber sur des choses comme ça qui semblent aujourd'hui aberrantes. Enfin, je veux dire, pourquoi on ne peut pas aménager un camion pour faire rentrer un fauteuil électrique ?
Est-ce que, Lydie, Elodie, quelqu'un veut rajouter un petit mot ?
En fait, moi, juste un dernier mot. L'idée d'une telle recherche, c'est qu'elle soit utile, qu'elle ait une utilité sociale. Et c'est vrai que le caractère d'invisibilité là, de la problématique qu'on a soulevée, c'était ça l'idée, parce qu'on nous a beaucoup dit, mais pourquoi pas le handicap psychique, pourquoi pas, alors que moi aussi, hein, la santé mentale, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est aussi ça, c'est un caractère d'utilité sociale.
Ouais, là, ça va combler, nous disait Stéphane, le manque de données scientifiques sur ce sujet spécifique.
Et moi, j'ai eu un échange juste avant d'arriver. J'ai échangé juste avant d'arriver avec un collègue sourd et je lui ai expliqué le thème de la recherche. Et il m'a dit, mais bien sûr qu'il y a des personnes sourdes en situation de grande précarité. C'est tout aussi l'intérêt de mobiliser mon réseau, de mes connaissances pour pouvoir faciliter la recherche.
Non, je voudrais juste dire un truc parce que je voulais l'ajouter que j'espère qu'on pourra continuer sur ce type de recherche parce que j'ai eu plusieurs coups de fil de personnes qui ont de l'autisme qui m'ont dit Lydie, s'il te plaît, fais quelque chose pour les personnes autistes dans la rue. Alors j'ai dit pour l'instant, là j'ai pas les moyens, mais voilà, il y a en fait le fait qu'on commence quelque chose, ça incite d'autres à nous solliciter pour d'autres choses. Voilà.
Très bien, on va s'arrêter là parce que du coup j'ai l'impression qu'on va vous revoir souvent. Dans le cadre de la FIRA. Restez avec nous, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Claude Amezen, s'il le souhaite.
D'abord, je trouve que ce projet est extrêmement important. Je crois qu'il nous dit quelque chose, d'abord par défaut. C'est très surprenant quand vous dites le SAMU social sait quel fauteuil il peut prendre et qu'il ne peut pas prendre. Mais on ne sait pas combien de personnes ont un handicap moteur dans la rue. Donc ça veut dire qu'on voit, on regarde, on constate... mais on ne prend pas en compte, on ne répertorie pas. Donc il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de ne pas vouloir voir ou de ne pas vouloir savoir, bien que la situation soit connue, c'est la première. La deuxième, vous parliez de catégorie sourd, aveugle. Je pense qu'en ce qui concerne les handicaps psychiques ou les troubles psychiques ou les troubles psychiatriques, un grand nombre de personnes qui vivent dans la rue vont acquérir des problèmes psychiques. Et donc, je pense que vous trouverez là encore un croisement entre handicap sensoriel, handicap moteur et handicap psychique. Il ne faut sans doute pas là encore catégoriser ou séparer. Ce qui me frappe beaucoup, mais je crois que c'est un thème général, et vous l'exprimiez, c'est que l'inclusion qui consiste à donner les mêmes droits, faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient les mêmes droits que d'autres, est en même temps un levier. C'est pas quelque chose simplement qui est une attitude à part ou en plus. C'est un levier pour que nous tous acquérions plus nos droits. Et on voit bien, quand vous dites, ce que je trouve remarquable, que la recherche sur des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel peut être un modèle pour une recherche qui permet d'inclure comme participants à part entière des personnes qui sont sans domicile et qui n'ont pas a priori de handicap. Ça veut dire que ce type de recherche sur les personnes en situation de handicap peut être un modèle pour élargir la prise en compte de toutes les personnes dans cette situation et puis pour les faire accéder à leurs droits. Parce que c'est une double peine d'être en situation de handicap et d'être dans la rue. Mais actuellement, être dans la rue avec les systèmes d'aide et d'accompagnement, c'est un désastre. C'est-à-dire que malgré toute l'aide qui est apportée, eh bien, elle est profondément insuffisante. Donc je crois qu'il y a, il y a ce message important, c'est que tout ce qui est fait pour augmenter l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, et on ne le réalise souvent pas, c'est quelque chose qui permet à nous tous et à nous toutes de mieux accéder à nos droits, si encore une fois on le voit comme quelque chose de global et pas simplement comme quelque chose de sélectif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que toutes les personnes, quel que soit leur problème, soient incluses dans les projets de recherche et dans les solutions à trouver. Et qu'est-ce qu'on peut faire, en l'occurrence, pour les personnes dans la rue ? J'avais juste une question. Les problèmes d'accès de difficultés d'accès, hein, puisque la majorité des gens, si mes renseignements sont bons, et je crois que vous le citez dans votre projet de recherche, n'ont pas accès aux services lorsqu'ils sont dans la rue. Donc il y a de toute façon un défaut, mais les personnes en situation de handicap le vivent sans doute de manière encore plus tragique. Est-ce que vous avez un groupe témoin ? Est-ce que vous avez des personnes qui sont sans domicile et qui, a priori, n'ont pas de handicap particulier pour pouvoir comparer et voir quelle est la part de la situation de handicap moteur ou sensoriel, je dirais, dans une plus grande difficulté que des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, d'accéder ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez facilement comparer ou prendre en compte ?
Oui, alors la littérature scientifique s'est beaucoup penchée sur cette question-là, sans faire de particularité sur le profil de la personne sans abri, sur le processus, là notamment c'est le docteur Emmanueli, hein, sur le processus de désocialisation qui a été défini en 5 étapes, etc. Donc là on a un modèle. Donc la question qu'on pourra se poser avec les personnes qu'on va rencontrer et qui ont des troubles particuliers, c'est comment ils s'inscrivent ou pas dans ce modèle. Est-ce que ce modèle va être remis en question ou pas? Est-ce qu'on va devoir le revoir à la marge ou au contraire prendre un autre modèle? Donc oui, ça, cette question-là, elle est assez bien. Donc on n'a pas un groupe témoin, mais il y a beaucoup de recherches qui font un modèle témoin pour qu'à un moment donné, quelqu'un revendique d'être dans la rue et disent à la personne qui va le voir que c'est un choix, alors qu'en fait, c'est tout sauf un choix. Sinon, on irait tous passer nos vacances dans la rue.
Bonne chance et bravo.
Merci.
Merci à toutes.